Bonjour à tous, vous suivez la revue Hebdo sur itmag.sn, le résumé de toute l'actualité des technologies de l'information et de la communication au Sénégal et dans le monde. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons vous proposer un ensemble d'interviews réalisées au cours d'événements liés au TIC qui se sont déroulés à Dakar ces dernières semaines. Le Sénégal a abrité la 11e réunion de l'AFRINIC, registre de l'Internet pour l'Afrique, c'était du 21 au 27 novembre 2009 à Dakar. Cette rencontre organisée par l'AFRINIC en collaboration avec l'Agence de régulation des télécommunications et des postes a permis à l'ensemble des participants d'apprécier l'étendue des avancées technologiques et leur impact socio-économique et politique sur le continent. Nous écoutons Adiel Akplogan, le directeur général de l'AFRINIC.
En Afrique aujourd'hui, il y a à peu près 25 millions d'équipements individuels connectés, puisque c'est le nombre d'identifiants que nous avons alloués aux opérateurs. Ces 5 dernières années uniquement, nous avons plus que doublé le nombre d'équipements connectés à Internet. Malheureusement, l'Afrique, avec toute sa diversité, également dans ce domaine, il y a des différences. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, par exemple, a pratiquement 27% de pénétration Internet, alors que certains pays sont encore autour de 2 à 3% de pénétration. La moyenne globale de l'Afrique, c'est de 6%. En Afrique, les lieux publics de connexion sont encore les plus prisés. 90% des gens utilisent Internet sur leur lieu de travail. Définitivement, il faut développer les moyens d'accès et en même temps aussi développer du contenu qui permettront aux gens de trouver la nécessité vraiment de se connecter à Internet.
Le bureau Afrique francophone de Google, basé à Dakar, a organisé le 20 et 21 novembre 2009 un séminaire qui avait pour objectif de former les développeurs et web entrepreneurs afin de mieux valoriser le contenu à mettre en ligne sur Internet. M. Tidiane Dem, le chargé du bureau de Dakar pour le développement des activités de Google sur l'Afrique francophone, revient sur le but de ce séminaire. Nous l'écoutons.
Ce qu'on essaie de faire, c'est de développer l'Internet. Et pour nous, une bonne moitié du travail, au-delà de l'accès, c'est de travailler avec la communauté des développeurs pour qu'il y ait plus de contenu africain pour les Africains, pour que les internautes africains aient du contenu qui est pertinent pour leur vie quotidienne, leurs besoins. Et ça, ça passe par le fait d'aider à développer tout un écosystème qui permet l'existence de plusieurs sites web, de plusieurs contenus web. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est une première rencontre avec les développeurs où nous essayons de leur montrer comment ils peuvent, en utilisant certains de nos outils, mettre des contenus en ligne, faire des sites web plus intéressants. Donc, c'est un travail de renforcement de leurs capacités techniques aujourd'hui en attendant ce qu'on fera sur d'autres domaines. Il n'y a pas assez de contenu aujourd'hui. Quand on fait de la recherche sur Google, on ne trouve pas de contenu. C'est pas parce que Google ne met pas de contenu. Comme je disais tout à l'heure, on est un moteur de recherche. Et on recherche, on indexe et on permet aux gens de trouver le contenu qui existe aujourd'hui. Donc quand on constate qu'il n'y a pas assez de contenu, le travail qu'on fait, c'est essayer d'encourager les développeurs à faire plus de contenu. Et en fait, il y a plusieurs axes à ce travail. Il y a le renforcement de leurs capacités techniques. Ça passe par ce genre d'atelier, hein. Des ateliers sur Google, mais des ateliers sur toutes les technologies qui permettent d'aller sur le web.
Et la question de savoir qui sont les acteurs qui bénéficient de cette formation, Michel Dem répond par ceci.
J'identifie généralement trois catégories d'acteurs, hein, sur lesquels on doit compter pour qu'il y ait du contenu. Il y a ceux que nous appelons communément en anglais les content owners, ceux qui possèdent le contenu, qui n'ont pas nécessairement quoi que ce soit à voir avec l'Internet et le web. C'est vous, par exemple. Aujourd'hui, vous, les journalistes, vous produisez beaucoup de contenu, de l'actualité qui intéresse les Sénégalais. Donc, nous, la question que nous posons, c'est comment on peut tous travailler ensemble pour que vous soyez plus présents en ligne, que vous apportiez le contenu dont les Sénégalais ont besoin. Donc, il y a toute une catégorie de gens qui ont du contenu. La deuxième catégorie, c'est ce que nous appelons les entrepreneurs. Parce que, au fond, pour que des gens fassent l'effort de mettre du contenu tous les jours sur le web, il faut qu'il y ait un business model derrière. Il faut que ça rapporte quelque chose. Les entrepreneurs, c'est ceux qui sont capables de regarder ça, de voir le business qu'il y a à faire dessus et de monter des business autour de cette idée-là. Et les développeurs, c'est ceux sans qui rien ne peut se produire. Hein. C'est ceux qui vont construire ces sites web, qui vont construire toute l'infrastructure technique qui va permettre de mettre ça en ligne. Et effectivement, une partie de notre travail, c'est de mettre tous ces gens-là ensemble et de leur dire « allez-y ». C'est aussi de leur parler et de comprendre ce qui les empêche de le faire aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal, comparé à beaucoup de pays africains, a une infrastructure relativement développée. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche tous ces acteurs-là d'aller en ligne et ce que nous, on peut faire en tant que Google pour les soutenir, pour les amener en ligne? Et donc, le plan n'est pas fixe. Nous écoutons vraiment ces gens-là. Nous espérons, aux sorties de cet atelier, les entendre beaucoup sur ça.
Tidjandem nous a aussi donné une explication sur l'utilisation de l'Internet qui n'est pas très développée au Sénégal.
Il y a certainement quelque chose à faire du côté des opérateurs, du côté du régulateur de l'État, du côté de tous les acteurs. Mais le propos que j'essaie de tenir ici aujourd'hui, c'est que quand je compare à ce qu'on a dans d'autres pays, l'Internet ne coûte pas aussi cher que dans certains pays africains. La bande passante est disponible, pour comme vous le dites. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une bonne moitié du travail n'est pas dans l'accès. Mais même si l'Internet coûte 1000 francs par mois, pour quelle raison vous allez le faire? Et il faut donc qu'il soit utile aux gens. Il faut qu'il y ait des contenus qui soient pertinents pour les gens pour lesquels on le donne. Et donc c'est un travail qu'il faut faire sur les deux tableaux. L'accès doit être plus abordable, le contenu plus intéressant, plus attractif.
Le représentant de Google au Sénégal est également revenu sur le type de modèle économique à appliquer pour rentabiliser son contenu sur Internet. Nous l'écoutons.
J'aime bien dans ce sens la démarche d'une structure comme Google qui a commencé par se rendre utile aux gens sans savoir comment on allait gagner de l'argent avec le moteur de recherche. Je pense que jusqu'en 2004, Google ne gagnait pas d'argent du tout. Mais la leçon qu'il faut retenir là-dessus sur le web, c'est que si vous allez en ligne, vous vous rendez utile à un maximum d'utilisateurs, vous y gagnez toujours. Il y a aujourd'hui des modèles en place. Les gens mettent par exemple en ligne des sites web et génèrent des revenus avec de la publicité. C'est un modèle. Des gens distribuent du contenu payant sur Internet. Par exemple, vous allez sur le Wall Street Journal, vous avez un certain nombre d'articles qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Il y a beaucoup de modèles pour gagner de l'argent sur le web et c'est justement ce que nous allons essayer de mettre à l'ordre du jour demain, discuter avec les gens sur tous ces modèles-là. Mais une chose est sûre, le meilleur moyen de gagner de l'argent sur le web, c'est d'abord d'être présent sur le web et d'être utile au maximum d'internautes. Ça marche. Nous sommes la preuve.
Vous suivez la revue Hebdo sur itmag.sn. La suite dans un instant. Microsoft a lancé officiellement au Sénégal son nouveau système d'exploitation baptisé Windows 7. Ibrahim Yousri, le directeur général de Microsoft Afrique de l'Ouest et du Centre, nous fait l'historique de Windows et la politique de Microsoft. Nous l'écoutons.
La politique de Microsoft, ou tout éditeur de logiciels, c'est toujours de s'améliorer et d'améliorer aussi son produit ou sa solution d'une manière générale et quand le besoin se fait sentir. On a commencé avec Windows 3.1 et avec l'évolution et avec les besoins des entreprises et des professionnels et des particuliers, on est allé jusqu'à Windows 95 et puis de 95 à 98, de 98 à 2000, de 2000 à NT, de NT à XP, de XP à Vista et de Vista on a sorti le SP2 pour corriger certaines choses et maintenant on est sorti avec la solution finale ou la dernière version de Windows qui est le Windows 7, le 7 qui va de sens c'est pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour répondre à la demande aussi des utilisateurs. Donc ça, c'est le résultat de l'expérience professionnelle et personnelle de la plupart des utilisateurs, sachant que je souhaite que vous mentionniez que le résultat de Windows 7, c'est un résultat de l'expérience de 8 millions de partenaires à travers le monde pendant les derniers mois, les dernières années. D'accord, donc c'est la demande des gens qui nous a fait sortir ce Windows 7 et qui est, selon toutes les critiques, est très réussi.
L'outil Windows 7 apporte également un certain nombre de nouveautés, notamment sa simplicité d'utilisation. Ibrahim Yousri.
Outil simple, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'une formation très poussée pour bien utiliser le système d'exploitation. Et quand on dit outil simple, on dit intuitive, c'est-à-dire que ce que vous pensez, il le fait. C'est-à-dire qu'il suffit de penser que quand j'ai envie d'ouvrir un dossier, il suffit de taper son nom, on trouve le dossier. D'accord ? De ce qu'on appelle simple. On n'est pas obligé de connaître l'exploration des fichiers, d'aller dans la méandre de système pour chercher le fichier. Il suffit de taper son nom et on le trouve. C'est ce qu'on appelle simple. Donc c'est simple, c'est intuitive. On passe la souris, on peut trouver, on a l'image. Si c'est ça qu'on cherche, on clique dessus et on le trouve. Donc pour nous, c'est ça la simplicité. La simplicité, c'est pas un simple mot. Quand vous l'utilisez, vous avez trouvé que un garçon de 11 ans ou 12 ans jusqu'à toute catégorie de la société peut utiliser ce système d'exploitation d'une manière beaucoup plus simple que ce qui était auparavant.
Le prédécesseur de Windows 7, à savoir Windows Vista, connu pour sa lourdeur, avait suscité une certaine réticence de la part des utilisateurs quant à son adoption. M. Juanito Adeya, directeur commercial grand compte de Microsoft Afrique de l'Ouest et du Centre, que nous avons interrogé, revient sur cette question. Nous l'écoutons.
Oui, effectivement, sur Vista, il y a eu une petite réticence au niveau du déploiement, c'est vrai, parce que ce qui s'est fait, le succès d'un système d'exploitation, c'est l'adhésion, c'est vrai, des utilisateurs, mais c'est également l'adhésion de la communauté professionnelle. Or, sur Vista, je pense qu'il nous a manqué des drivers, un certain nombre de pilotes qui ont fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas pu démarrer Vista. À côté de ça, il y a également eu la lourdeur de ce produit-là. Vista est lourd et ça a impliqué le changement du parc machine. Aujourd'hui, on peut vous garantir que avec la légèreté de Windows 7, 50% du parc matériel est prêt à utiliser Windows 7. Windows 7 démarre en 40 secondes. 40 secondes, donc plus léger. Et Windows 7 aujourd'hui embarque énormément de drivers. Windows 7, c'est 3000 développeurs qui ont travaillé pendant plusieurs années et on a eu le temps d'y intégrer ou de corriger, je vais dire, toutes les erreurs qu'on a faites sur Vista.
Concernant le prix de la licence de Windows 7, le directeur général de Microsoft Afrique de l'Ouest et du Centre déclare que le prix final n'est pas fixé par Microsoft, mais plutôt par les revendeurs.
Il n'y a pas un prix, on ne peut pas dire qu'il y a un prix. Non, mais ce n'est pas une question. Ça dépend des versions. Ça dépend aussi, il y a des versions qui sont pour Home and Student, c'est pour les étudiants, qui est un prix très simple. Donc je ne peux pas vous dire actuellement le prix, parce que ça, c'est pas nous qui vendons. Sachez ça, c'est que nous, on travaille par l'intermédiaire de nos distributeurs et nos partenaires. Nous, on les cède à un prix et eux, ils le revendent avec une marge que, bien sûr, nous, on contrôle un peu pour savoir qu'il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Mais nous, on ne peut pas vous dire un prix parce que ce n'est pas nous qui fixons le prix. On ne vend rien en direct. Ça, c'est quelque chose aussi que vous devez connaître depuis le temps que vous connaissez Microsoft. On ne travaille pas direct, on travaille par l'intermédiaire des partenaires et par les distributeurs. Nous, ils achètent une quantité et ils le revendent par rapport à leurs revendeurs. On a des milliers de revendeurs ici au Sénégal et sur l'ensemble du territoire que eux, ils vendent, soit ils l'installent dans les PC, ils le vendent en tant que PC, et soit ils le vendent en détaché, en ce qu'on appelle FPP ou le Full Package Product, c'est-à-dire une boîte comme ce que vous avez pu voir, c'est une boîte vide d'ailleurs, mais c'est ça que...
Le lancement de Windows 7 avait aussi été marqué par la sortie d'autres solutions de Microsoft telles que Windows Server 2008 R2 et Microsoft Exchange Server 2010.
Exchange, c'est le serveur de messagerie qui gère toute la communication, l'intercommunication entre les boîtes email par exemple. D'accord, ça c'est un serveur de messagerie, d'accord, pour l'application professionnelle. Le Windows Server 2008, c'est pour administrer les réseaux, pour amplifier encore ou pour développer les applications qui peuvent être utilisées au Windows 7. C'est pour un usage professionnel pour les entreprises. Ça dépend de taille d'entreprise qu'on veut utiliser. On va mettre un serveur 2008 R2 pour sécuriser le réseau, pour améliorer la performance de chaque utilisateur, pour administrer le réseau, pour donner les droits et les utilisations de chaque utilisateur. Donc c'est comme c'est pour toutes les entreprises et n'importe quel administrateur de réseau comprendra facilement.
S'agissant maintenant de la question concernant le piratage, le responsable de Microsoft dans la zone Afrique de l'Ouest et du Centre lance un appel à plus de citoyenneté.
Sachez une chose, un truc aussi, que c'est le piratage affecte beaucoup plus l'industrie de l'informatique du Sénégal et l'emploi du Sénégal, puisque nous, encore une fois, on travaille 100% par l'intermédiaire de partenaires. Donc chaque copie piratée, ça affecte nos partenaires sénégalais ou l'acteur web et un informaticien ici qui est impacté directement par ça. C'est ce qu'il faut savoir. Donc le piratage, ça affecte pas seulement Microsoft ou l'éditeur de logiciels ou d'autres éditeurs de logiciels. c'est pas notre affaire à nous seulement, c'est l'affaire aussi de toute la société sénégalaise qui est pénalisée par rapport à ça. C'est des taxes qui sont en moins par rapport à l'État. C'est des emplois qui sont en moins. C'est un emploi en moins et c'est aussi des ressources en moins par rapport aux sociétés informatiques qui sont en plein ici. Et c'est eux qui font les services informatiques, etc. Donc c'est tout un circuit qui est pénalisé par cet acte non-série de piratage.
C'est la fin de cette revue hebdo. Merci d'avoir suivi. L'actualité des TIC continue sur itmac.sn. Restez connectés.